Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
Je suis arrivé à l'Université de Montréal, jeune prof, le premier mandat difficile qu'on m'a confié, parce que j'étais le jeune prof qui ne pouvait dire non à aucune demande de ses supérieurs, c'était d'inaugurer un cours à la faculté de médecine. Donc un cours qui n'avait jamais été donné, il n'y avait pas de syllabus sur lequel je pouvais m'appuyer, donc un cours d'éthique pour les médecins, qui faisait partie et qui fait toujours partie du cours obligatoire des médecins en année prémédicale et pour certains en première année. J'avais aucune idée comment faire. Je me suis acheté des livres de bioéthique et j'ai commencé à entendre parler de clivage entre une perspective conséquentialiste, une perspective davantage axée sur les règles. Et en même temps, commençait une série qui, justement, ça tombe bien, son dernier épisode sera diffusé dans une semaine, commençait une série qui s'appelle ER, Urgence, que je regardais assidûment. C'était les premiers épisodes de ER étaient vraiment d'une qualité remarquable, d'excellents acteurs, d'excellents scénarios. Et il y avait donc trois personnages qui étaient au cœur de cette histoire. Il y en avait plein, mais il y avait trois personnages qui étaient vraiment principaux. Il y avait Doug Ross, donc incarné par George Clooney, qui est devenu depuis vedette de cinéma, qui fait partie du firmament des étoiles américaines. Carter, un jeune étudiant qui tout naïf, tout nouveau, qui essaye de se développer une identité morale dans cette profession, et Green, qui est le personnage donc du médecin un peu plus, il est là depuis un peu plus longtemps. Il y a plein d'épisodes qui tournent autour essentiellement de la chose suivante. Ross, qui est un pédiatre, donc c'est des enfants dont il traite. Il y a des règles qui l'empêchent de faire quelque chose dont il sait que ce serait bon pour un enfant et qui, à un moment donné, autour de la 27e minute de l'épisode, se dit « Les règles, j'en ai rien à faire, je vais agir pour le bien de cet enfant, quelles que soient les règles. »
Une transgression.
Green, donc, personnage un peu plus hésitant, un peu plus réflexif, qui se dit « Oui, mais Doug, il y a souvent des dialogues sur ce point-là, tu ne te rends pas compte que les règles, elles aussi, ont des conséquences bénéfiques à long terme. » Et il y a le personnage de Carter, le jeune étudiant, qui, essentiellement, est en train de décider si son identité morale en tant que médecin sera un peu plus comme Green, un peu plus comme Ross, ou un hybride des deux. Qui serais-je entre ces deux personnages ? Et je me suis rendu compte qu'entre les livres un peu gros sabots de philo que j'étais en train de lire, où on parlait de ces concepts de manière très abstraite, mais sans incarnation dans des situations humaines, et la série ER, sur le plan pédagogique, ER valait bien mieux que ce que j'étais en train de lire dans les livres de philo.
C'est-à-dire que si on part du principe que tout narrateur de fiction met à l'intérieur de sa fiction ce à quoi il croit, mais aussi les conflits qu'il habite, mais aussi les interrogations, les révoltes, etc. Inévitablement, comme celles-ci sont les objets dont s'occupe la philosophie, inévitablement, il va créer des situations qui vont être des situations qui vont en elles-mêmes parler de ces situations de conflit, de ces situations de réflexion, de ces révoltes, de ces oppositions qu'il peut y avoir entre les individus. Alors, c'est simplifié, mais d'un autre côté, ce sont des situations simplifiées. Les gens réagissent avec leurs sentiments, ils réagissent avec leurs croyances, et ils ont tendance à réagir de manière un peu immédiate. C'est très difficile dans la vie courante d'entretenir, de s'asseoir en se disant « Bon, je reprends hier, par exemple. » Dans un des premiers épisodes aussi d'hier, dans les premières saisons, une patiente qui a un cancer du sein avancé et qui est sous morphine, demande à Green d'augmenter ses doses de morphine. Or, il sait qu'elle a une insuffisance respiratoire. S'il augmente ses doses de morphine, il va hâter sa mort. Mais elle souffre tellement qu'elle a besoin de morphine. Et donc, il est pris dans ce dilemme qui est, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la laisse souffrir parce que je sais qu'en augmentant la dose de morphine, elle va mourir plus tôt ? Ou est-ce que je l'empêche de souffrir, mais je hâte sa mort ? Et c'est comme ça que ça se présente dans la réalité.
Et c'est vrai que ça simplifie en un sens, mais en un autre sens, je trouve que les séries télévisées, quand elles sont bien faites, et comme ER l'a toujours été, malgré parfois des creux de vagues, elles permettent de voir quelque chose que la philosophie morale ne révèle pas toujours. Il y a un philosophe très connu, décédé récemment, qui s'appelle Bernard Williams, qui, dans un article vraiment très important, dit la chose suivante. Le problème des arguments en philosophie morale, c'est que quand on décide que tel... Par exemple, sur la question que tu viens de poser, faut-il ou non donner de la morphine à la dame ? La philosophie morale a tendance, du moins dans sa variante anglo-américaine, à faire comme si une fois qu'on avait décidé que la bonne chose à faire c'était A plutôt que B ou B plutôt que A, la question était réglée une fois pour toutes. Qu'il n'y avait pas, pour reprendre son terme magnifique, que je ne saurais pas comment traduire avec suffisamment d'exactitude, il n'y a pas de remainders moraux de l'autre côté. Alors, ce qu'il y a de bien ce qu'il y a de complexe dans les séries télévisées lorsqu'elles sont bien faites, c'est que les personnages qui prennent des décisions, mais ils en souffrent très souvent.
Bien sûr.
Ils se rendent compte que la décision qu'ils ont prise était peut-être la meilleure, all things considered,
oui.
Mais que l'autre côté de la balance morale n'a pas été pour autant complètement évacué. Et pour reprendre nos exemples dont nous discutons depuis l'autre fois, Green, Jack McCoy, tous ces personnages souffrent de leurs décisions. Ils ne prennent jamais des décisions difficiles comme si elles étaient faciles. Et je crois qu'un des défauts de la philosophie il y a un côté dans la philosophie morale, un côté un peu... combat, hein. On a quelqu'un qui écrit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on veut montrer qu'elle a tort, et pas seulement qu'elle a tort, mais qu'elle a complètement tort, et on simplifie jusqu'à un certain point les positions parce qu'on veut montrer qu'on a raison et qu'elle a tort. Les meilleurs personnages des séries télévisées sont des personnages qui souffrent de leurs décisions parce que ce sont des décisions dont une personne morale, humaine, bien constituée, doit, jusqu'à un certain point, souffrir. Mmh. Une personne qui prendrait la décision d'administrer de la morphine dans les conditions que tu as définies et à qui ça ne ferait absolument rien, serait une sorte de monstre.
Serait un monstre, exactement. Quand je disais que ça simplifie les choses, je ne voulais pas dire que ça les simplifie pour les rendre simplistes. Je voulais dire que ça les simplifie en les épurant. Ça les simplifie en les rendant immédiatement intelligibles à tout le monde et en même temps en posant exactement le problème tel qu'il se présente dans la réalité. C'est-à-dire que même si les circonstances dans lesquelles, par exemple, on peut être amené à modifier le traitement de quelqu'un en courant le risque de le faire mourir, même si c'est plus compliqué que ça, dans le sens où on n'a pas toute l'histoire, la famille peut s'en mêler, les collègues peuvent avoir leur avis, etc., in fine... Le médecin qu'est Green dans cette séquence-là, in fine, puisque c'est lui qui est responsable de cette décision à prendre, c'est à lui qu'on pose la question. Il ne peut pas simplement s'en décharger en disant ben non, il faut que j'aille consulter mon comité d'éthique. D'ailleurs, à l'époque, il n'en est pas question de comité d'éthique. C'est intéressant, par exemple, de voir l'évolution de qu'est-ce que c'est que l'éthique dans les séries médicales sur 15 ans d'urgence, parce que c'est à peu près pendant cette période-là que les comités d'éthique ont commencé à se vulgariser. Mais même si il y a tout un environnement, il est obligé de prendre une décision, et cette décision, il la prend seul. Et il la prend seul, comme tu dis, en sachant que quelle que soit la décision qu'il va prendre, il va souffrir. Ce n'est pas seulement la patiente qui va souffrir, c'est lui qui va souffrir. Et là, c'est ce qui, moi, me paraît très, très important aussi, c'est que, à mon sens, le fait de montrer des médecins, ou d'ailleurs n'importe quelle personne qui est dans un dilemme éthique, de montrer que cette personne la souffre, ça équivaut aussi à poser comme problème le fait qu'une décision éthique n'est jamais une décision purement intellectuelle, et que même si on fait abstraction de toutes les pressions extérieures, il y a toujours la subjectivité de la personne qui prend la décision ou de la personne qui est consultée pour donner son avis sur cette décision qui rentre en ligne de compte et qui fait rentrer en ligne de compte une souffrance possible de cette personne-là. Ça devient donc très souvent... le problème de est-ce que moi je dois me faire souffrir Ou est-ce que ma préoccupation en tant que soignant, par exemple, c'est de me préoccuper que les autres souffrent ou non? Est-ce que ma souffrance vaut plus que celle des autres? Est-ce qu'elle vaut moins? Est-ce que je tais ma souffrance en disant non, finalement, je prends telle décision? Ou est-ce que j'abonde trop dans ma propre souffrance? Ça, c'est très très important. Parce que on le voit très bien dans les séries télé, les adolescents, les étudiants qui regardent les séries télé le voient très bien, ça les met d'ailleurs vachement mal à l'aise parce que ça les renvoie à leur propre souffrance, alors que dans mon expérience, dans l'enseignement médical, on fait toujours comme si le médecin ne souffrait pas, ou comme si en tout cas il devait faire abstraction le plus possible de ses sentiments ou de ses opinions personnelles, comme s'il pouvait s'en débarrasser comme ça. Ce qui, évidemment, est absolument irréaliste.
Le fait que les problèmes moraux soient abordés par des personnages dans lesquels nous nous reconnaissons, en partie parce que nous reconnaissons en eux la complexité, la dualité, l'ambivalence, l'ambiguïté, fait qu'il est, à mon sens, toujours beaucoup plus facile et beaucoup plus fécond d'essayer, ou même pas d'essayer, ça se fait tout seul, de partir une discussion morale à l'échelle sociétale sur une question compliquée, à partir d'un épisode ou d'épisodes de séries de télévision, qu'en les énonçant comme ça dans un éditorial qu'on pondrait, dans lequel on placerait de manière un peu abstraite les principaux enjeux dos à dos et demander au public de discuter. J'ai vécu notamment aux États-Unis. Le Québec est un endroit un peu étrange parce que nous consommons à la fois du français et de l'anglais. Il y a des séries de télévision, ER l'a été pendant un temps, que tout le monde regardait. Et j'ai vécu aux États-Unis à plusieurs moments, où tu pouvais être sûr d'une chose en arrivant au bureau le vendredi matin, c'est que tout le monde aurait regardé l'épisode de la veille. Et qu'autour de la machine à café ou autour de sandwich, on s'est mis à parler des personnages. Mais à travers les personnages, des questions dont ils traitaient. Et ce qui est vrai dans le microcosme, d'un bureau est vrai à l'échelle sociétale. Quand on pense qu'à son apogée, ER rejoignait quelque chose comme un quart de toute la population des États-Unis. Il y avait une cinquantaine de millions de personnes qui regardaient les épisodes, ce qui est considérable.
Ça, c'est seulement aux États-Unis, parce que c'était aussi la série la plus regardée au monde.
Voilà. Mais l'immédiateté, encore une fois, l'épisode diffusé le jeudi soir, qui traitait d'une problématique qui souvent avait été suggérée aux scénaristes par quelque chose qui s'était passé
dans les médias,
quelques semaines auparavant, devient vendredi le sujet de discussion, et ça permet une discussion qui est idéalement, pas toujours, mais assez fine, parce qu'elle est vécue dans la complexité dans laquelle les personnages eux-mêmes la vivent. L'avortement, c'est pas les termes très carrés qu'on a tendance à lui donner, c'est cette personne-là qui avait tel ensemble de circonstances qui l'entouraient, ou le suicide médicalement assisté, etc., etc., sont toujours présentés dans des termes humains où la complexité ne peut jamais être évacuée.
Et ça, c'est parce que c'est aussi une caractéristique des séries télévisées que n'a aucun autre mode d'expression artistique, de fiction, c'est que ce sont des fictions qui sont écrites collectivement. C'est-à-dire que sur une série télévisée donnée, tu as toujours entre 6 et 12 scénaristes qui tournent. Alors évidemment, il y a un maître d'œuvre qui est quelqu'un qui donne les grandes lignes directrices de la série, qui va décider, il y en a 2 ou 3, mais tout le monde, puis soit dans son expérience personnelle, soit en lisant dans le journal, pour justement alimenter cette série. Par conséquent, une saison, mettons, de ER, une saison de House, ou une saison de Grey's Anatomy, c'est toujours une œuvre collective. Et c'est ça qui, moi, me paraît intéressant, et c'est pour ça aussi, je pense, il faudrait l'analyser de façon plus approfondie. Je rêve que d'une chose, c'est d'être millionnaire pour pouvoir aller interviewer tous les scénaristes d'Hollywood qui font des bonnes séries, et passer mon temps à ça. Ce qui atteste du caractère universel des problèmes qui sont abordés, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent à l'élaboration de ces scénarios.
Et ce qui explique le fait que, alors qu'il existe, alors, cette chose qu'en tant qu'éthicien, j'ai toujours détestée, le roman à thèse ou le film à thèse, qui essaye de faire en 2 heures ou en 200 pages une démonstration, je ne pense pas qu'il ait jamais existé dans l'histoire de la télévision une série à thèse.
En général, elle ne dure pas.
Est-ce que tu peux penser à un exemple d'une série à thème,
je
une
pense
série
pas,
qui...
je pense, je, j'y pense pas comme ça parce que... Ben, tout simplement, non. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des films à thèse parce que justement, quand tu veux faire, comment dirais-je, faire pousser un grand coup de gueule, tu vas le pousser. C'est le pamphlet, quoi.
Oui.
La forme pamphlétaire, c'est une forme qui, par définition, est courte. Tu peux pas faire un pamphlet à épisode. Et par contre, en revanche, les séries télé, elles ne sont pas faites pour ça. Les séries télé, elles partent... Alors, tout le monde dit, oui, mais c'est commercial. Je dis, mais attendez, les écrivains, ils ont envie de vendre leurs livres.
La raison pour laquelle Dickens fait 700 pages,
voilà, parce qu'il exactement. Balzac, il n'arrêtait pas d'écrire parce qu'il fallait qu'il vende. Enfin bon, il n'y avait que Flaubert qui, lui, était rentier et qui pouvait se permettre de sortir que 4 bouquins dans sa vie. Mais tous les artistes sont des gens qui ont envie de vendre. Alors John Ford produisait ses films parce qu'il voulait les vendre. Et donc, il faisait des films, entre guillemets, commerciaux. N'empêche qu'il y a plusieurs chefs-d'œuvre à l'intérieur. Les séries télévisées, c'est la même chose. Bien sûr qu'ils veulent, ils veulent vendre. Ils veulent surtout être regardés.
Ouais.
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois, il y a quelque chose qui est un mélange très important parce qu'il y a une véritable volonté esthétique qui est dictée, d'ailleurs, par le système. Une série ne peut tenir à l'antenne que si elle a un aspect visuel, un ton, des personnages et des histoires qui ne ressemblent à aucun autre. Parce que par définition, comme les spectateurs ont déjà tout vu, ce qui va les intéresser, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, ou qui en tout cas n'a pas encore été traité comme ça. Par conséquent, il y a une obligation d'originalité, pas seulement dans la forme, mais aussi dans le ton. Hein, les propos sont toujours les mêmes, puisque les propos évoluent avec la société, mais on ne peut pas traiter de choses qui n'existent pas. Mais il y a cette nécessité d'être à la fois original et en même temps de durer, c'est-à-dire de rentrer en contact avec le public et de raconter au fur et à mesure des histoires qui vont le toucher presque en prise directe avec la réalité qu'il vit.
Et c'est pour revenir au thème, disons, de la diversité des points de vue, de pouvoir avoir un contact avec une pluralité de types de spectateurs, dont certains vont se retrouver dans un Green, peut-être d'autres dans un Romano,
bien sûr.
Pour revenir à la série ER.
À suivre la semaine prochaine.